France Inter.
La demande d'acier en Europe est en Allemagne, en Italie. Elle n'est plus en France. La désindustrialisation est passée par là. Nos sites sont exposés aujourd'hui aux surcapacités mondiales et aux importations destructrices des marchés européens. Donc, nous sommes face à une concurrence déloyale et la nationalisation ne règle en rien ce problème.
C'est le président d'ArcelorMittal France, jeudi sur France Info. Alain Legris de la Salle explique la crise de l'acier européen. L'Assemblée nationale a approuvé en première lecture la nationalisation de son entreprise, la branche française du deuxième sidérurgiste mondial qui emploie 15 000 salariés chez nous. Vous avez entendu la députée Aurélie Trouvé à 7h50. Bon, nationaliser, ça n'a rien d'incongru hein, lorsqu'il s'agit de préserver un savoir-faire ou une souveraineté industrielle. Le Royaume-Uni l'a fait cette année en prenant le contrôle de deux sidérurgistes qui étaient en faillite. Mais en France, ArcelorMittal n'en est pas encore là. Et surtout, la nationalisation ne réglerait pas tout. Le problème de fond, en effet, persisterait. Et certains syndicats craignent même que, dans ce cas, le groupe reprenne clients, brevets et R&D. Alors, la menace de nationalisation n'est-elle pour autant qu'un geste symbolique? Mittal dit suspendre ses investissements dans l'attente d'une protection européenne. Eh bien, Bruxelles propose justement de nouveaux quotas et de nouveaux droits de douane pour endiguer les importations massives d'acier chinois. Un plan qui doit encore être validé par les 27 et le Parlement européen la semaine prochaine. En fait, ce vote, c'est un énorme coup de pression sur l'actionnaire. Et ce débat, il révèle un double manque de confiance. D'abord envers la multinationale, soupçonnée de court-termisme financier, et ensuite envers l'Europe qui doit toujours convaincre qu'elle peut agir vite et fort pour protéger ses industries.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
L'écho comme on la vit, l'écho comme on la veut. Bienvenue dans notre conversation du samedi. Je l'ai préparée avec toute la bande. Mon coproducteur Valentin Pérez, Étienne Bertin le réalisateur, Anne-Cécile Perrin l'attachée de production et nos deux signatures du son, Corentin Rouchy au mix et Jérôme Ragano à la console. L'invité de ce 29 novembre, c'est le patron de l'assureur AXA, groupe mondial au chiffre d'affaires de 110 milliards d'euros en 2024. Le réchauffement climatique, les tensions géopolitiques, les conflits, comment assurer des populations, des entreprises qui deviennent plus vulnérables? Interview de Thomas Bouberle vers 9h40. La semaine, elle a été marquée par l'annonce d'un service militaire volontaire pour les jeunes. De plus en plus de pays en Europe veulent remonter leur niveau de préparation face aux questions de sécurité. Et ça se joue aussi dans l'industrie de défense qui voit arriver de nouveaux flux d'argent, des commandes, des contrats. Une effervescence et encore beaucoup de défis pour répondre aux attentes. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Comme tous les derniers samedis du mois, nous prendrons aussi les bons conseils de lecture de Christian Chavagneux. Bonjour Christian.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, vos recommandations, elles sont aussi guidées par l'actualité.
Oui, malheureusement, j'ai deux livres sur le narcotrafic en général et à Marseille en particulier. Mais vous allez voir, j'ai aussi une petite surprise pour vous, une belle histoire à vous raconter.
Allez, une belle histoire, on prend ce matin. On vous retrouve juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat, c'est une info de la semaine passée au crible par Anne-Sophie Le Chevalier de Libération. Hello Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Marc Vigneault de L'Opinion. Salut Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Alors cette semaine, une quarantaine d'associations de lutte contre la précarité sont montées au créneau pour obtenir plus d'informations au sujet de cette allocation sociale unique, ou maintenant on dit allocation sociale unifiée. Le gouvernement a annoncé à la mi-novembre un projet de loi en décembre. Alors, eh bien, on y arrive. Une réforme des prestations sociales bientôt sur les rails, mais qui concernerait des millions de Français et dont nous ne savons pas grand-chose exactement. Ça vaut un débat.
RSA, APL, prime d'activité, le projet de loi prévoit de regrouper toutes ces aides en une seule allocation dès début 2026. Pour un paiement au juste droit, estime le Premier ministre, de quoi peut-être aussi alléger les procédures.
Ayons le courage, une bonne fois pour toutes, de mettre en œuvre ce que tout le monde a réclamé depuis un certain nombre d'années et que plus personne n'ose demander parce qu'on sait très bien que c'est parfois très compliqué à faire.
Sébastien Lecornu, Premier ministre.
À l'heure du data, du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est quand même bien invraisemblable que dans un pays comme la France, on n'arrive pas à faire l'allocation sociale unique.
A priori, les associations de lutte contre la pauvreté sont plutôt pour ça, parce que ça simplifie pour les bénéficiaires.
Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise.
Je rappelle qu'il y a à peu près un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA qui n'accèdent pas au RSA. Mais Monde. Je n'ai pas confiance, mais alors du tout. Parce que le gouvernement, on voit bien, ce qu'il veut faire, c'est des économies budgétaires sur le dos des ménages aux revenus les plus modestes.
C'est un combat que je porte depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je suis content qu'on puisse le faire avancer.
Laurent Wauquiez, député, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.
L'objectif, c'est qu'on fusionne ces aides. Une seule allocation, plafonnée par rapport aux revenus du travail. Parce que l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on gagne avec un vrai écart plus en allant travailler qu'en restant chez soi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce système-là est en train de nous tuer. Donc ce que je veux, pour l'expliquer très simplement, c'est moins d'aide sociale, plus de salaire.
Potentiellement, une réforme comme ça, elle pourrait conduire à baisser le montant d'allocations touchées par 3 millions de Français.
Delphine Rouillot, présidente du collectif Alerte.
La seule solution pour que cette réforme n'ait pas d'impact majeur pour les personnes les plus pauvres, c'est de l'accompagner d'un investissement budgétaire de plusieurs milliards d'euros.
Tout est sur la table. Anne-Sophie Le Chevalier, je me tourne vers vous pour faire la photo. Une allocation sociale unique ou unifiée, de quoi parle-t-on ?
Alors, c'est un projet que déjà Michel Barnier et François Bayrou avaient chacun à leur tour annoncé avant d'être renversé. Donc maintenant, Sébastien Lecornu reprend ce projet. L'idée, c'est d'harmoniser les ressources qui sont comptabilisées pour le versement de trois allocations, le RSA, la prime d'activité et les allocations logement, pour créer ce qu'ils appellent un revenu social de référence. Donc aujourd'hui, même si ça a été un tout petit peu simplifié récemment, c'est d'une complexité quand même très importante. C'est pas forcément toujours les mêmes ressources qui sont comptabilisées pour ouvrir les droits, et pas toujours les mêmes périodes selon les allocations. Donc l'idée, c'est d'améliorer la lisibilité du système actuel, de le rendre plus rationnel et de permettre des gains éventuellement d'efficience. Et donc c'est quand même... Alors le problème, c'est qu'on sait que c'est, pour l'instant, Sébastien Lecornu est assez flou sur ce qu'il veut faire, et donc on ne sait pas à quel objectif c'est exactement associé. Mais ça s'inscrit dans un cadre plus large, depuis le début des mandats Macron. Dès le premier mandat, en 2018, Macron promet un revenu universel d'activité dans le cadre d'une stratégie de lutte contre la pauvreté. Il y a un rapport final qui s'est étudié, donc il y a un rapport final de Fabrice Langlard, qui est aujourd'hui à la tête de l'INSEE, qui a été rendu, mais jamais rendu public. Et en 2022, Emmanuel Macron veut se faire réélire. Il est dans un meeting à la Défense en avril et il dit, il annonce ce qu'il appelle la solidarité à la source. Donc c'est plus le REA, c'est la solidarité à la source.
C'est plus le revenu
universel d'activité.
Voilà, ouais.
Et pour mettre fin à ce qu'il appelle la chose la plus injuste, les économies sur le dos des pauvres. Et donc là, il vise le non-recours. Et donc depuis... on avance à tout petit pas. Et...
Mais on avance, puisque maintenant on nous promet...
Une
loi en décembre.
Ou peut-être janvier.
Marc Vigneault, pour compléter la photo.
Alors on voit que Sébastien Lecornu s'empare d'un projet qui peut se transformer en des choses totalement différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, par cette mesure, on peut faire de la simplification administrative. C'est l'administration qui vous pré-remplit vos déclarations de ressources que vous devez faire quand vous voulez toucher le RSA ou quand vous voulez toucher la prime d'activité. Donc de ce point de vue, c'est plus facile. On vous dit, c'est une base ressources qui est unifiée. On va arrêter de vous dire, pour telle prestation, il faut rajouter la part salariale des tickets restaurants, telle part, etc. C'est au moins tout le monde sait ce qu'il faut faire. Pendant des années, il y avait des gens qui étaient rattrapés. On leur disait, attendez, pour la prime d'activité, là, vous avez oublié de déclarer la partie salariale des tickets restaurants.
Ça crée un énorme problème du non-recours. On n'en a pas...
Un gros problème de non-recours, parce qu'il faut faire des déclarations. Il y a des gens qui ont un peu honte de demander ces prestations. Ça crée d'autres problèmes d'indus et de remboursement d'indus. Vous savez que les comptes de la CNAF
La Caisse nationale d'allocation familiale.
Ont été très critiqués par la Cour des comptes parce que le système étant extrêmement complexe, il y a beaucoup d'indus, de remboursements, etc. Donc, il y a un objectif de simplification administrative. Ensuite, il y a un objectif de, éventuellement, on va fusionner carrément les allocations qui sont servies. Apparemment, le gouvernement dit on ne va pas aller jusque-là. Le ministre du Travail a été très clair. Il a dit on harmonise les bases ressources, mais comme chaque allocation a un objectif de politique économique et qu'on veut faire très attention et que c'est très délicat, on va garder chaque allocation. Laurent Wauquiez, lui, il veut en faire un outil pour plafonner les allocations à 70% du revenu minimum pour dire les allocations ne doivent jamais payer plus, l'inactivité ne doit jamais payer plus que le travail, ce qui est déjà largement le cas. Et puis, alors, un des problèmes de ce que dit...
Attendez, qu'est-ce qui est largement le cas? Justement, il y a cette idée, ça peut-être qu'on peut s'arrêter deux secondes sur cette idée que, Anne-Sophie, les allocations, on pourrait gagner plus en restant à la maison avec des allocations qu'en travaillant.
Une idée que Laurent Wauquiez contribue
donc
beaucoup à
répondre. Le républicain Laurent Wauquiez, oui.
À répondre, mais qui ne correspond pas à la réalité. Dans l'immense, immense majorité des cas. Donc, moi, j'ai repris l'adresse, donc le service statistique des ministères sociaux, qui fait un portrait chaque année des minima sociaux, avec plein de calculs et plein de détails. Et là, ils écrivent noir sur blanc, en définitive, quelle que soit sa situation familiale, une personne ne percevant pas de revenus d'activité a un niveau de vie inférieur à celui d'une personne travaillant au SMIC à mi-temps, qui elle-même a un niveau de vie inférieur à une personne travaillant au SMIC à temps plein.
Alors, donc, la question... Attends, Anne-Sophie finit sa phrase et c'est à vous, Marc. Allez-y, Anne-Sophie.
Oui, et il faut quand même se rendre compte que, de quoi on parle. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus d'activité, il a en prestation moins que le seuil de pauvreté monétaire, donc moins de 1 288 € pour l'année 23, quand le SMIC était à 1 399 €. Donc l'écart, il existe. Donc...
Alors là, il y a une ambiguïté, c'est que donc, Laurent Wauquiez, lui, il va sur le terrain, il dit sans arrêt qu'il y a des Français qui expriment que lui, il se lève tout le matin pour aller travailler et que le voisin d'à côté vit des allocations. Là où il y a un malentendu, c'est que là, vous parlez en niveau de vie, Anne-Sophie, et Laurent Wauquiez, lui, il parle en euros. Niveau de vie, vous savez, il faut regarder combien il y a d'enfants dans le foyer, etc., etc. Et si vous exprimez vos aides en pourcentage du SMIC, le SMIC, c'est un revenu par définition individuel, alors que les aides distribuées dans le système social français, elles sont familialisées. On le calcule en fonction des revenus du foyer. On prend en compte les revenus du deuxième, de celui qui apporte le deuxième revenu, éventuellement. Et donc, c'est là que, en fait, il y a une espèce de confusion. C'est vrai que maintenant, on a amélioré le barème des aides sociales, notamment avec la création du RSA, de la prime d'activité, pour s'assurer que le travail paye toujours plus que l'inactivité. Après, il y a des aides connexes qui sont versées par les régions, les localités, etc. Et il y a une étude d'un économiste qui s'appelle Lorty, qui est Yannick Lorty, qui est un économiste du travail assez réputé, qui dit on n'a pas observé que les aides permettaient de gagner plus sans travailler qu'en travaillant, mais par contre, il y a quand même une exception à Paris, où le barème des aides est très peu dégressif, où c'est très largement distribué, et là, effectivement, le gain au travail n'est pas flagrant, parce qu'il y a les transports gratuits,
tout
le système d'aide. À Paris, il a étudié une vingtaine de villes dans une étude assez récente, et il a dit, à Paris, il y a un problème.
Donc à Paris, il y a un sujet.
Et par ailleurs, pour finir là-dessus, il y a quand même un sujet que tout le monde reconnaît, c'est que quand on monte un tout petit peu au-dessus du SMIC, on monte dans l'échelle des salaires, il y a des allègements de charges pour les patrons, pour les entreprises qui diminuent de manière assez, assez forte. Il y a la prime d'activité qui diminue. Il y a les allocations au logement qui diminuent. Et donc là, il y a un rapport d'experts qui vient de sortir qui s'appelle le groupe d'experts sur le SMIC et qui explique que pour la première fois dans des données, en observant les salaires des personnes qui sont à ces niveaux de salaire, effectivement, le fait que tout le système d'aide sociale se conjugue avec l'impôt sur le revenu, quand vous obtenez une promotion dans l'entreprise, que vous montez un peu en salaire, et en fait, ce que vous gardez dans la poche à la fin des fins, une fois que vous avez enlevé l'impôt sur le revenu, que vous avez vu vos aides baisser, etc., et ben c'est très peu. Sur 100 euros, c'est vous gardez effectivement dans la poche que 20 ou 25 euros.
Ça, c'est, et donc, tout, là, c'est le rapport qui est sorti il y a 48 heures.
Voilà. Hein, ouais. Et donc, redessiner ces aides-là dans le cadre de l'allocation sociale unique, ça peut aussi permettre que ces aides diminuent moins vite et encourager le travail et encourager les promotions dans l'entreprise un petit peu au-dessus du SMIC. Donc c'est pas un problème de retourner au travail, c'est peut-être un problème d'encourager les augmentations salariales et faire que le système soit plus encourageant à avoir des promotions, à faire des formations et que plus de travail paie.
Là, on parle plus de la lutte contre la pauvreté, mais sur le, il y a eu une mission flash cet été qui a été demandée à deux députés, une députée socialiste et une députée LR, Sandrine Runel et Nathalie Collin-Oesterlé. Elles ont rendu un rapport, elles ont fait plusieurs auditions, et sur la proposition de Laurent Wauquiez de plafonner à 70% du SMIC les différentes prestations. Alors, même si la députée LR précise qu'il ne faut pas fuir le débat, elles écrivent quand même que ce plafonnement ne tient pas compte de la diversité des situations individuelles, puisqu'il applique la même limite à tous, sans modulation selon la taille du foyer, sans modulation selon le coût du logement, le nombre de personnes éventuellement handicapées, ce qui va à l'encontre, elles écrivent, du principe d'équité sociale. Enfin, elles disent aussi que, à partir du moment où il y a un plafond, franchir le plafond entraîne une perte immédiate et totale des prestations, ce qui pose un énorme problème. Il faut peut-être quand même rappeler le contexte qu'on n'a pas rappelé, c'est que les derniers chiffres qu'on a sur le taux de pauvreté, les dernières statistiques ont été publiées cet été, elles concernent par l'INSEE, elles concernent l'année 2023, et on est à plus de 15% de taux de pauvreté, ce qui est un record depuis des années et des années.
Vous savez, Anne-Sophie, que ça, c'est largement un effet d'optique statistique, qui est lié au fait que les prestations sociales sont revalorisées a posteriori sur l'année d'avant, qu'il y a eu très forte inflation l'année précédente, et que les prestations sociales dont on va nous donner les résultats, on va donner les résultats sur la pauvreté en décalage, vont nous dire que les prestations sociales sont très fortement revalorisées sur l'inflation de l'année précédente, et donc cette chose-là va se corriger. Enfin, il y a une période.
C'est un effet d'optique statistique qui ne correspond pas, à votre avis, Marc, à une réalité? Qu'il n'y avait pas un taux de pauvreté à 15% en 2023.
Il y a plusieurs. En 2023, il y a eu un ressaut de la pauvreté lié au fait que les prestations sont revalorisées avec retard. Mais en 2024, on va vous dire que ça retombe comme par miracle.
Oui, puis après, on va se rendre compte en 2025 qu'avec l'application de la réforme de la RSA et des
si vous enlevez, par exemple, l'effet d'une réforme où on verse aux bailleurs sociaux, où on a changé des paramètres aux bailleurs sociaux, en fait, les gens touchaient exactement la même chose, mais on ne dit plus que c'est du revenu pour eux.
On s'éloigne, on est en train de faire...
Ça fait baisser le taux de pauvreté d'au moins 0,2 points. Enfin, il y a des effets statistiques de partout.
Le débat sur qu'elles sont débordées, c'est quand même aussi une réalité. Enfin, faut quand même rappeler tout ça et pas évacuer ça en disant que c'est un effet d'optique statistique.
Je vous ramène, notre débat, c'est sur l'allocation sociale unique, bonne ou mauvaise idée. On en est là, après ce que vous nous avez mis sur la table. Est-ce que les associations, elles ne sont pas forcément contre, d'ailleurs, Marc ?
Tout dépend de la philosophie du projet. Oui, si vous mettez plus d'argent sur la table, vous pouvez à la fois augmenter les aides et encourager le retour au travail. Après, à argent constant...
C'est ce qu'elles disent. Elles disent,
oui. Oui, à enveloppe constante, encourager à gagner plus au travail ça ne peut pas être compatible avec le maintien des aides telles qu'elles sont. Donc il faut éclaircir la chose. À budget constant, c'est très difficile. Donc il va falloir éclairer exactement ce que le gouvernement veut faire. Dans ce rapport que Anne-Sophie cite des deux parlementaires, ils expliquent sur quoi l'administration a travaillé. Et là, comme Sébastien Lecornu est en plein budget et qui vient d'arriver, évidemment qu'il va s'appuyer sur ce que l'administration a dans les cartons.
Alors en bref, nous reste une poignée de secondes, Marc.
En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on peut faire quelque chose à budget constant, ça va réduire un petit peu le taux de pauvreté, mais malheureusement, il n'y aura pas que des gagnants. Il y aura 3,9 millions de personnes qui toucheraient davantage, des personnes modestes, mais aussi 4 millions des personnes qui vont percevoir moins. Et parmi les perdants, ça serait des ménages qui sont en priorité propriétaires de leur logement, les bénéficiaires de la seule prime d'activité ou des seules aides au logement. Et il y a un deuxième scénario dans lequel l'État doit mettre 2 milliards d'euros sur la table. Et là, ça réduit un peu plus la pauvreté et il y a un peu moins de perdants, mais il y aura quand même des perdants.
Anne-Sophie, le mot de la fin.
Les associations, ce qu'elles veulent surtout, c'est qu'il y ait une stratégie de lutte contre la pauvreté et que cette réforme puisse permettre de réduire la pauvreté, à la fois son taux et son intensité. Et donc c'est pour ça qu'il faut effectivement que ça soit clair. Et ce dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est la possibilité de cette réforme de réduire le non-recours. On l'entendait dans le zapping.
Mais
ça coûte aussi très cher, parce que de fait, tous les gens qui ont le droit à des prestations et qui le demandent, demande pas, donc on l'évalue à plus de 30% pour le RSA. C'est si d'un coup elle se retrouve à l'avoir, même si ça ne sera pas automatique, c'est plusieurs milliards. Donc il y a les gagnants et les perdants dont Marc parlait politiquement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils vont choisir les pauvres qui méritent pas, ou est-ce qu'ils vont choisir de... Enfin, ça dépend s'ils font par le haut ou par le bas. Et donc cette réforme-là, on parle d'économie, mais les économies, elles arrivent dans très longtemps, et dans un premier temps, c'est une réforme qui demande un investissement financier de plusieurs milliards.
Eh bien écoutez, on sera fixé dans quelques jours, enfin au mois de décembre. Anne-Sophie Le Chevalier et Marc Vigneault, ils ont fait le débat dans N'arrête pas l'écho.
La déindustrialisation
maintenant qu'on y a cette économie.
L'écho comme elle tourne ailleurs. Ce matin, nous partons outre-Rhin.
74% des Menschen im Osten Deutschlands konnten weder eine Betriebsrente aufbauen noch eine private Vorsorge. Die durchschnittliche Rente liegt brutto bei 1400 und ein paar kleinen und bei Frauen übrigens bei 900.
Bien sûr, je traduis la ministre du Travail allemande Bärbel Baas. Elle dit « 74% des Allemands de l'Est n'ont pas pu se constituer une retraite d'entreprise ou une épargne privée. La pension moyenne brute est de 1400 euros environ et celle des femmes d'environ 900 euros. » Voilà, c'est le tableau des pensions que reçoivent aujourd'hui les retraités allemands. Bonjour Sébastien Baer, Guten Morgen.
Guten Morgen Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Allemagne. Alors chez vous aussi, sans surprise, ce dossier des retraites enflamme régulièrement le débat. Cette semaine, la coalition vit ce qui est peut-être sa plus grave crise. Elle est percutée par le sujet du taux de remplacement, c'est-à-dire ce que touchent les retraités en proportion de leur salaire quand ils étaient actifs.
Oui, alors rappelons d'abord, Alexandra, que cette réforme, c'est l'un des projets phares du chancelier Friedrich Merz. Cela doit vous rappeler sans doute quelque chose. Voici ce que prévoit le texte. Le maintien des retraites à leur niveau actuel, c'est-à-dire à 48% du revenu moyen jusqu'en 2031. Sur ce point, pas de problème, tout le monde est d'accord. C'est ensuite que la situation se complique. 18 jeunes députés conservateurs de moins de 35 ans, issus donc du camp de Friedrich Merz, exigent à partir de 2032 un taux de remplacement à 47%. Un point de moins donc, ce qui permettrait de réaliser des milliards d'euros d'économies, ce que refusent les sociaux-démocrates partenaires de la coalition. Les jeunes conservateurs jugent le système de retraite bien trop onéreux. Chaque année, son coût s'envole, c'est vrai. 408 milliards l'an passé, plus 60% par rapport à 2010. L'État devra ponctionner l'année prochaine le quart de son budget pour combler le déficit. Pas question, disent les députés rebelles, que la charge repose sur les futures générations, dont ils sont, c'est vrai, les porte-parole.
Sébastien, on peut rappeler que le système de retraite allemand est en crise depuis longtemps. Plusieurs tentatives de réforme ont avorté ces dernières années.
Oui, l'Allemagne est un pays qui vieillit. La fécondité s'est effondrée au début des années 70 et l'espérance de vie augmente. Résultat, plus de retraités, moins de cotisants. 5 millions d'actifs vont quitter le marché du travail dans les 10 ans à venir. Pour calmer les frondeurs, Friedrich Merz a promis que la commission retraite, qui doit bientôt voir le jour, sera chargée de plancher sur des réformes d'ampleur, sans tabou. Faut-il continuer à indexer les pensions sur les salaires ou au contraire plutôt les aligner sur l'inflation qui progresse moins vite? Faut-il faire passer l'âge de départ à la retraite à 70 ans contre bientôt 67 ans aujourd'hui? Difficile de dire si ce compromis convaincra les 18 députés rebelles pour faire passer le texte la semaine prochaine. Leur soutien est en tout cas indispensable, car la coalition au pouvoir ne dispose que d'une très fragile majorité de 12 sièges.
Sébastien Baer, avec nous à Berlin. – 9h36 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, le patron d'AXA, Thomas Buberl, sera dans ce studio. Comment assurer un monde qui devient plus dur, plus instable? Nous vivons le réchauffement climatique, la polarisation des sociétés, l'arrivée de l'intelligence artificielle, et puis la possibilité de conflits, peut-être plus violents que les guerres hybrides que nous subissons actuellement. Au Parlement, la question des moyens alloués à la défense revient au premier plan. L'augmentation de 6 milliards d'euros prévue dans la loi de programmation militaire sera a-t-elle préservé? Un vote spécifique doit être organisé, c'est le souhait du Premier ministre. Les industriels sont sur le qui-vive, eux à qui la mission a été assignée de produire plus. Allez, nous sortons du studio, regardez cette effervescence, direction Brest. Notre reporter Anaël Verzo nous emmène sur le site de Thalès, qui fabrique notamment des sonars, des détecteurs de sous-marins.
Pour venir dans 5 ans, quand on aura construit de nouveaux immeubles ici.
C'est prévu?
Bah, vous voyez, regarde, ça pousse un petit peu partout. Je dirais que le site de Thalès, ici, c'est un peu comme la ville de Brest. C'est en chantier régulier. pour répondre à une montée en cadence, à de nouveaux contrats.
C'est comme un quartier de ville, ce site.
Il y a des bâtiments un petit peu partout. C'est le plus grand site défense de Thalès en France, avec 28 hectares pour environ 1800 personnes. Je m'appelle Olivier Ajor, je suis conseiller opérationnel sur la lutte anti-sous-marine aéroportée, chez Thalès.
Là, ça va être l'heure du déjeuner, donc il y a des personnes qui sortent des bureaux.
On va couper par là.
Et là, c'est quoi, là-haut, là, sur le toit ?
Alors, sur le toit que vous avez ici, effectivement, on a une pointe avant de Rafale, donc le nez du Rafale. Et entre autres, ça nous permet de calibrer les systèmes de défense et d'autoprotection de l'aéronef.
Allez-y. Bonjour.
Bonjour.
Tu vas bien ?
C'est la fin ?
Oui.
On peut s'équiper ?
S'il te plaît.
Allez. Moi, je suis du 39.
Ah, merci. Il y a les casques qui sont juste là-bas.
Ouais, merci. Donc, c'est les chaussures de sécurité avant de rentrer sur le site de production de Sonar, qui sont des détecteurs de sous-marins militaires. On vous suit ? On arrive dans un grand hangar dans lequel sont entreposées des machines jaunes. Ah.
Donc ce sont des, ce qu'on appelle des poissons. On les a mis en jaune pour bien les voir quand ils remontent à la surface. On a augmenté la puissance de production sur le site de Brest de 2,5 fois entre 2022 et 2026-27. On en produit à peu près 14 par an.
Le technicien qui se bouche les oreilles, là, c'est vrai que c'est un son qui est assez puissant. Hop, voilà le truc qui se met en route.
Il faut bien imaginer qu'ici, dans le hall de production, le son est assez puissant. Par contre, quand vous êtes en mer, que les portes du bateau sont ouvertes pour un peu qu'il y ait une mer un peu formée, le bruit doit être audible de tous les militaires et de tous les marins qui sont à proximité. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un niveau sonore qui soit assez conséquent. Et donc les commandes sont étatiques. On voit l'augmentation de la cadence de production ces dernières années pour livrer beaucoup plus rapidement. Et pour ça, on a besoin de remettre en place toute la chaîne de production. Et vous voyez ici, on est dans un hangar. Il y a un deuxième ici qui a été rajouté. Et on a un troisième bâtiment qui a été construit et inauguré il y a un an. C'est aussi lié à l'augmentation des budgets de défense qui nous ont permis d'embaucher plus de personnes pour répondre plus aux besoins actuels. Ici à Brest, entre 2024 et 2026, en moyenne, on embauche 120 personnes tous les ans. Et ici, on développe entre autres un moyen de lutte anti-sous-marine que la France ne produisait plus depuis des années avec la baisse de la menace sous-marine, c'était les bouées acoustiques. Donc une augmentation du budget de la défense, c'est toujours intéressant dans le but de gagner la souveraineté pour l'État français. Ça bénéficie à tous les industriels de la défense, mais ça bénéficie aussi à tout l'écosystème de la défense.
En Europe, les dépenses militaires ont presque doublé en 20 ans, passant de 219 milliards d'euros en 2005 à 381 milliards d'euros aujourd'hui. Et les investissements pourraient encore doubler d'ici à 10 ans. En France, les industriels suivent attentivement les débats parlementaires sur le budget 2026. Ils prévoient d'ajouter 3,5 milliards d'euros à la mission Défense, qui passerait ainsi à 57 milliards cette année. Cette envolée du budget de l'armée ne profite pas qu'aux grands groupes industriels comme Thalès, Safran ou Dassault. 4500 PME et start-up spécialisées se développent aussi. Elles fabriquent des vis, des boulons, des écrous, mais aussi des missiles, des logiciels embarqués dans des drones d'attaque qui résistent au brouillage électromagnétique ou encore des outils pour accélérer la planification des opérations. L'entreprise Alta Ares, lancée en 2024, est considérée par le secteur comme l'une des plus prometteuses. Son fondateur, Adrien Canter, parle français, anglais, russe et ukrainien.
Je vous appelle depuis nos bureaux à Kiev, qui connaissent une certaine expansion depuis quelques mois maintenant. Alors Alta Ares, c'est une société française qui a toujours eu pour dessein d'être déployée en Ukraine en soutien des forces armées européennes grâce à l'intelligence artificielle. On fait des missions de veille sectorielle ou des drones intercepteurs qui vont faire des missions en fait de protection de l'espace aérien, donc protéger des villes, protéger des infrastructures face à des menaces et des drones de conception iranienne qui sont lancés chaque nuit sur des infrastructures et des villes ukrainiennes qu'on va venir protéger avec nos systèmes.
Alors, vous venez d'ouvrir un site de production en France, en Charente-Maritime. Le lieu précis est tenu secret pour des raisons de sécurité. Il n'a pas été possible d'ailleurs de visiter pour des raisons de sécurité également. Qu'est-ce que vous y fabriquez et en quelle quantité ?
Notre objectif, il est simple. S'imposer comme le leader de la défense européenne via nos systèmes Combat Proven. Aujourd'hui, on a une cadence qu'on vise de plusieurs centaines par mois et on peut raisonnablement penser à augmenter la cadence à plusieurs milliers par mois.
Est-ce que vous avez déjà décroché des contrats avec la France ?
Alors, nous avons déjà des contrats, notamment avec l'OTAN. Et en France, c'est plutôt des contrats qui visent à expérimenter certains de nos systèmes. Nous avons des perspectives très encourageantes pour l'année 2026. Il y a clairement un avant et après les déclarations d'Ursula von der Leyen qui ont acté que la défense était une priorité aujourd'hui pour l'Union européenne.
Comme beaucoup dans le secteur de la défense, Altares s'apprête à réaliser une levée de fonds. Elle devrait lui permettre d'engranger plusieurs millions d'euros. Mais même avec des moyens, le tissu industriel français existant peut-il suffire à produire ce que l'armée attend dans des délais raisonnables ? La Direction générale de l'armement, chargée de coordonner cette montée en puissance, pense justement que non et essaie d'anticiper. J'arrive à son siège à Paris. J'ai rendez-vous avec Benoît Laroche de Roussanne. Il est le directeur de l'industrie de défense au sein de la DGA.
La demande globale est plutôt en hausse et a tendance à excéder la capacité de production. C'est un travail conjoint avec les industriels d'analyse très précise de la chaîne de sous-traitance pour identifier quels sont les points de difficulté. Plus de 200 avaient été identifiés au début de l'économie de guerre sur les 12 systèmes d'armes considérés comme prioritaires. Et le deuxième travaux que nous sommes en train de réaliser est là plus prospectif en vue d'un passage en production de masse, c'est d'identifier des industriels civils, des partenaires avec qui nous pourrons, le jour où ce sera nécessaire, accélérer assez significativement en convertissant leur outil de production pour produire des éléments, soit des produits finis comme des drones ou des munitions téléopérées, ou des parties d'équipement qui seront nécessaires. Les travaux ont réellement bien accéléré depuis une bonne année et nous avons un certain nombre d'industriels maintenant avec lesquels nous sommes en discussion. Donc l'industrie automobile fait partie des gens avec qui nous échangeons, les équipementiers, mais nous travaillons aussi avec des industriels plus spécifiques sur des capacités que nous avons identifiées comme étant critiques, comme l'injection plastique, l'usinage, le soudage, l'emboutissage, vous voyez, des éléments de chaîne de valeur dont nous savons qu'aujourd'hui nous utilisons beaucoup les sous-traitants, mais le jour où il faudra accélérer, nous aurons besoin de plus de capacités.
Tout prévoir si le monde bascule, y parviendrons-nous ? Pour la chercheuse Anaïs Voigilis, spécialiste des questions industrielles à l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers, il faudra encore répondre à plusieurs défis.
Je vois trois risques. Aujourd'hui, c'est premièrement, on a des dépendances critiques qui sont lourdes dans la question, dans les métaux, l'électronique, les batteries, etc. Donc, ça pose la question de la résilience des chaînes de valeur dans la défense. Est-ce qu'on est capable d'avoir une défense autonome ? Surtout, par exemple, si on pense à notre dépendance en termes de matières critiques à la Chine, dépendance à la Chine aussi en matière d'électronique. Mais il y a aussi la question de l'extraterritorialité du droit américain, avec tout ce qui va concerner les composants ITAR, sur lesquels les États-Unis peuvent mettre des restrictions à l'exportation pour l'industrie européenne. Et on a deux autres sujets. On a une capacité de production finalement qui sont limitées. Pour monter en cadence, il faut avoir des chaînes de production qui sont capables de s'adapter à cette montée en puissance de la défense européenne. Et donc ça demande des capacités d'investissement. Or on voit qu'on a un tissu industriel qui est essentiellement des PME qui peuvent manquer de financement, manquer de fonds propres, manquer de visibilité. Donc si on veut prendre ce tournant-là, il faut s'assurer que la chaîne de valeur de la défense européenne suivent le rythme pour être réellement prêt à affronter un monde qui vient, qui va être forcément plus dur. Et la troisième chose, on a une pression budgétaire et donc financer la défense, ça implique des arbitrages dans un contexte de tension sur le budget. On voit tous les débats qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale et donc des arbitrages avec d'autres questions, des questions énergétiques, des questions environnementales, des questions de financement d'infrastructures, d'adaptation au changement climatique. Donc forcément, si on renforce le budget de la défense, ça va se faire au détriment d'autres choses et c'est comment on pose la question des priorités et des choix qu'on fait collectivement, c'est finalement un management des risques. Donc on a des vrais choix politiques à faire qui ont des conséquences derrière.
L'accélération des cadences et des signatures de contrats, une nouvelle ère pour l'industrie de la défense. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
L'invité dont n'arrête pas l'écho est le premier assureur français, le deuxième assureur européen. Bonjour et bienvenue Thomas Buberl.
Merci Alexandra, bonjour.
Vous êtes le directeur général d'AXA. Le management des risques, eh bien, c'est votre métier aussi. Et à ce sujet, vous menez une grande enquête annuelle avec des experts dans 57 pays, aussi des questions au grand public. Est-ce que la menace de conflit devient majeure sur ce radar pour vous ?
Absolument. Nous sommes confrontés aujourd'hui avec une polycrise. Dans le passé, on a toujours eu une période calme, une période un peu tendue avec des risques, et après ça s'est recalmé. Là, on sort du calme et on a des risques partout. Et ça veut dire qu'il faut complètement changer la manière dans laquelle on comprend les risques et on les gère, mais aussi on essaie de les prévenir.
Et est-ce que les risques, les tensions géopolitiques, les risques de conflit, est-ce que ça, cette menace, elle apparaît de plus en plus fort, et est-ce qu'elle change votre métier ?
Absolument, parce que nous sommes, au-delà de l'assurance des personnes, aussi assureurs des transports maritimes, du cyber, des satellites. Et là, vous tombez tout de suite sur ce sujet géopolitique. Et il est devenu évident qu'on doit beaucoup plus réfléchir et gérer ça différemment. Et je veux dire, ça fait le contexte avec le reportage sur la défense qu'on vient de voir. Le secteur de défense et le secteur de l'assurance sont aujourd'hui assez parallèle dans la question de la compréhension des risques et dans la question aussi de se préparer sur l'impossible.
Et justement, comment est-ce que pour un assureur on se prépare ? Qu'est-ce qui change ? Vous parliez du transport maritime. Qu'est-ce qui change quand on assure des transports maritimes avec tous ces risques ? Ou même en Europe, qu'est-ce qui change pour les entreprises ? Si vous assurez en Pologne aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de changer ?
C'est ce qui change, c'est aujourd'hui, on est confronté avec plus de risques qui coûtent plus cher. Et la question va arriver, comment on peut financer tout ça ? Comment on peut encore se couvrir dans ce monde où les risques et les primes augmentent ? Et la seule manière est de passer d'un stade de payer pour la réparation vers de prévenir la réparation. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille plus avec nos assureurs sur comment on peut se préparer et on peut éviter le prochain sinistre. Et la prévention va être beaucoup plus au cœur de l'assurance dans le futur.
Lorsque vous dites cela, vous pensez, j'imagine, aux tensions géopolitiques, mais le risque numéro un du radar, c'est bien le risque climatique.
Absolument, oui.
Et avec les catastrophes naturelles, on a vu justement les primes payées par les assurés augmenter de plus en plus. Dans certaines parties du monde, je pense en Floride, il y a de moins en moins de propriétaires qui assurent leur logement. Est-ce que ce phénomène-là, vous êtes en train de le voir émerger ailleurs ? Je pense évidemment à l'Europe et à la France, de gens qui renoncent parce que ça devient trop cher.
Absolument. Même en France, on voit une partie de la population qui peut plus permettre de l'assurance du point de vue parce que c'est trop cher et quelquefois les gens sont exclus. Et c'est à nous maintenant de trouver des solutions. Chaque risque est assurable. Il faut trouver la bonne manière de le faire. Et c'est pourquoi, pour assurer par exemple un risque climatique, il est absolument clair, il faut réresponsabiliser plus l'assuré. Par la prévention, l'assuré doit contribuer pour que le prochain sinistre ne se fait pas.
Alors, à Hong Kong, par exemple, j'ai lu, c'était dans le Financial Times, que AXA propose des assurances, des primes moins chères si les clients investissent dans des protections face aux inondations. C'est ça dont vous êtes en train de
exactement.
Me parler
si, alors, si un sinistre arrive, on a toujours la phase de reconstruction. Et au lieu de reconstruire comme à l'époque, on peut reconstruire dans une manière dans laquelle le bâtiment est mieux protégé contre la prochaine inondation. C'est exactement ça que j'appelle la prévention. Et il y a aussi une étude qui est sortie l'autre jour que 1 euro investi dans la prévention évite de sinistres entre 6 et 7 euros. Là, vous avez vraiment la valeur ajoutée de la prévention.
Donc, vous, assureurs, vous redoutez que les gens ne s'assurent plus et pour ça, vous êtes prêts à vous transformer en quoi ? En conseiller climatique pour dire aux gens, bah, il faut faire ça et si vous faites ça, je vous propose une assurance moins chère. C'est ça que vous faites ? Parce que ça peut coûter cher aussi de s'adapter. Qui va payer ? Vous dites les assurés devraient payer pour prévenir. Mais comment payer, par exemple, s'il faut assurer sa maison contre les inondations ?
Non, mais la prime de l'assurance est une fonction de la sinistralité. Si j'arrive à baisser la sinistralité par la prévention, ça veut dire par mieux gérer le risque, j'ai automatiquement une baisse de prime. Et c'est ça qui va financer la prévention. Et comme je vous avais dit avant, 1 euro investi dans la prévention fait 6 à 7 euros moins de sinistres. Et ça, c'est une statistique qui vient de la Banque d'investissement de l'Europe.
Oui, mais donc le fait de prévenir de son logement, sa voiture, son entreprise, ça restera à la charge de l'assuré. C'est quand
oui,
même un effort à faire.
C'est pas une charge vraiment, c'est un changement dans le comportement. Alors, c'est une charge, bien évidemment, quand on doit reconstruire le bâtiment, mais on doit le reconstruire dans n'importe quel cas. C'est plutôt la question... Comment on peut faire changer les comportements des gens ? Prenons par exemple le sujet de la santé. si je vois ma prise de sang et je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que, par exemple, j'ai un risque de pré-diabète, il faut changer mon comportement. L'assuré est au centre de l'équation pour la prévention. Si il ou elle change son comportement, on peut ensemble baisser la sinistralité.
Mais Thomas Buberl, est-ce que si je suis votre raisonnement, vous êtes en train de dire que les assureurs ou vous assureurs, vous êtes en train de penser à ne plus prendre des gens qui ne changeraient pas leur comportement parmi vos clients, refuser certains clients?
Non, les gens ont le choix. Si quelqu'un veut contribuer, ça veut dire, et prévenir, ça veut dire moins de primes. Si quelqu'un veut dire non, je ne veux pas, il ou elle va forcément être obligé à payer une prime plus élevée.
Alors à propos des primes, ça c'est un gros sujet pour les assurés. Les primes habitation notamment, elles n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Pour 2026, certains experts évoquent encore une hausse à venir des cotisations multirisques habitation de 8%. Est-ce que c'est exact pour l'année prochaine?
Alors, on n'est pas encore à la fin de l'année. L'année, est, vous savez, le décembre est toujours un mois quelquefois un peu agité du point de vue climat. Je pense qu'il faut voir à la fin de l'année. Mais les augmentations de primes représentent exactement le phénomène sur lequel on a parlé, l'augmentation de la sinistralité. Parce qu'à la fin, les comptes doivent être égalisés.
Mais justement, cette année, vous aviez prévu des provisions pour les catastrophes naturelles et ça n'a pas été atteint, cette enveloppe n'a pas été consommée. Cette année, ça a été moins dur, la sinistralité.
Globalement, oui. En France, non.
En France, ça a été consommé. En France,
oui, bien sûr, ouais. Parce qu'on oublie, on regarde toujours les grands ouragans. Aujourd'hui, les grands ouragans ne sont plus le sujet. C'est les petits événements locaux, la sécheresse, les feux, les inondations, et on oublie vite.
Thomas Buberl, je vous ramène en France sur le débat budgétaire, les débats au Parlement. Qu'avez-vous pensé de l'emprunt forcé auprès des plus riches, la proposition socialiste qu'on a vue émerger ces derniers jours?
D'abord, nous sommes dans une situation très grave en France en ce qui concerne le budget et il y a un sujet que j'ai du mal à comprendre. On se bat sur 1 500 amendements et on perd un peu l'auteur de vue. Il est important pour la France et aussi pour sa réputation à l'étranger de retrouver un moyen de confiance. Et à mon avis, confiance est un budget. Et c'est pourquoi il faut, à mon avis, aujourd'hui dire un budget doit s'inscrire dans un projet pour la France. C'est quoi ce projet?
Bon, ça, on l'attend. Mais ma question sur l'emprunt forcé auprès des plus riches. Dernière proposition socialiste. Alors, qu'en pense le patron d'AXA?
Ça revient à la question du projet, parce que l'empreinte foncée, quand on l'entend au début, on peut dire « qu'est-ce que ça, cette idée ?» Mais l'idée de dire un citoyen donne de l'argent et un prêt pour un projet concret, par exemple dans ce cas-là, la défense ou la santé, je trouve ça se discute, parce que à la fin, on a une liaison entre « je donne de l'argent » et c'est investi dans un projet concret. La destination est claire. Et je pense que c'est exactement ça aujourd'hui. Il faut amener les citoyens français sur un projet pour la France.
Alors là, c'est les plus riches, les 20 000 personnes les plus riches. Donc ça, vous seriez prêt à contribuer? Pour vous, est-ce qu'il y a des conditions à votre accord?
Moi, je suis chef d'entreprise, je ne suis pas parlementaire. Et c'est pour la question ne se pose pas pour moi.
Thomas Buberl, la suspension de la réforme des retraites, le patron du MEDEF a dit que c'était une hérésie. Vous en pensez quoi?
Alors, on ne peut pas négliger le tableau de mortalité et longévité. Et là, on voit que si on revient quand ce sujet de la retraite est inventé, c'était Bismarck. À l'époque, les gens ont vécu 6 ou 12 mois après la fin du travail. Aujourd'hui, on dépasse 6, 12, 20 ans. Ça veut dire notre contrat social qui nous a fait fort pendant longtemps doit être redéfini et rebalancé.
Bon, Thomas Buberl, le directeur général d'AXA, qui est aussi colonel de la réserve opérationnelle de la Marine nationale. On n'en a pas parlé. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
L'écho à la page avec Christian Chavagneux. Christian, ce matin, vous nous recommandez deux ouvrages sur le narcotrafic.
Ouais, le premier qui m'a intéressé, c'est Narcotrafic, le poison de l'Europe. Il est écrit par Mathieu Verboux et Christophe Bouquet, c'est aux éditions La Découverte. Les deux auteurs sont deux documentaristes qui sont des spécialistes de la part d'ombre de la mondialisation. Et là, ils reviennent sur le trafic de cocaïne dans le monde. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on apprend une foule de choses. Par exemple, il ne faut plus dire le cartel de la drogue ou les cartels de la drogue. Un cartel, c'est quand vous avez des acteurs puissants qui se partagent le marché et font les prix. Là, pas du tout. C'est des milliers de petits producteurs qui se livrent à une concurrence sauvage, vraiment dans tous les sens du terme. Les deux auteurs reviennent sur la place de Rotterdam. Les Pays-Bas, ce pays où du moment qu'on peut acheter et vendre des choses et faire de l'argent avec, eh bien on fait tout passer, les produits chinois pourris, mais aussi le trafic de drogue. Et puis il y a un élément important qui est lié directement à notre actualité, c'est le fait que les juges italiens, depuis longtemps, disent que la mafia qui est liée au trafic de drogue est très présente en France. Et ça, c'est un peu laissé de côté. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe concrètement à Marseille, là je vous conseille d'aller jeter un œil sur Cartel Nord, plongé dans la nouvelle ère du trafic marseillais, c'est Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard au Cherche Midi. On rentre vraiment, pas de grandes idées, hein, on rentre vraiment dans Marseille, dans la cité de la Paternelle, la guerre des gangs, on voit naître la fameuse DZ Mafia. Et malheureusement, toutes ces bagarres et ces affrontements meurtriers dans la belle ville de Marseille.
Oui, en effet, le narcotrafic dans l'Hexagone et à Marseille en particulier. Et puis quand même, Christian, vous nous avez promis une belle histoire.
Oui, alors c'est celle de la couturière de Marie-Antoinette. C'est un livre écrit par Audrey Millet chez Talendier. Rose Bertin, elle s'appelle. Moi, j'avais déjà croisé, c'est un peu la ministre de la mode de Marie-Antoinette, celle qui lui fait dépenser beaucoup d'argent sur des robes de luxe qui valent absolument rien. Pas du tout. On voit qu'on a affaire à une businesswoman absolument incroyable. Elle fait son apprentissage à Abbeville, c'est là qu'elle est née, à Paris. Elle a une vingtaine d'années, elle se lance toute seule dans sa propre boutique pour proposer à Marie-Antoinette, qui l'accepte comme fournisseuse officielle, des robes d'une grande valeur. C'est elle qui invente la haute couture, en fait. Des robes uniques, de luxe, et elle sait qu'elle vend à la noblesse non pas simplement des robes chères, mais un petit bout du prestige royal et du pouvoir royal. Et vraiment, elle explose, elle va même réussir à traverser la Révolution et à s'en sortir. C'est une belle histoire.
L'écho à la page, Christian Chavagneux.